France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, à Rambourou, un rugbyman pris au piège des gentlemen fascistes. Le 19 mars 2022, au bout de la nuit, une bagarre éclate à la terrasse d'un café parisien dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés. Quelques minutes plus tard, Frédérico Martin à Rambourou, criblé de balles, meurt dans les bras de son ami Sean Hegarty. L'affaire fait grand bruit. Rambourou est un ancien joueur de rugby bien connu. Il a porté les couleurs de l'Argentine et de Biarritz, notamment. Quant à ses assassins présumés, Loïc Le Priol et Romain Bouvier, ce sont des petites frappes d'extrême droite, bien connues de la police et de la justice. Militants du GUD, ils fréquentent les beaux quartiers parisiens et sont fascinés par la violence et par les armes. Dès lors, on ne parle plus d'un simple fait divers, d'une bagarre d'ivrogne qui tourne mal, mais bien d'un fait de société. L'affaire à Rambourou pose en effet la question de la violence atavique de l'extrême droite, mais aussi de ses accointances avec les forces de l'ordre et de l'impunité dont elle jouit en France depuis plusieurs années. Notre invitée aujourd'hui, Marine Turki, journaliste à Mediapart et spécialiste de l'extrême droite. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
L'armée russe intensifie sa conquête du littoral ukrainien. Les troupes du Kremlin sont entrées dans le port de Mariupol, la ville de Mykolaïv. Dernier verrou sur la route d'Odessa a aussi payé un très lourd tribut. Une guerre qui nous prend forcément.
Ce 19 mars 2022, c'est un samedi, la guerre en Ukraine accapare toute l'attention. Voilà bientôt un mois que la Russie de Vladimir Poutine a lancé son offensive militaire sur Kiev. Les journaux ne parlent que de ça. Et du match de ce soir, France-Angleterre au Stade de France. Si les Bleus l'emportent face aux 15 de la Rose, ils gagneront le tournoi des 6 nations. Mieux, ils réaliseront le Grand Chelem, 5 matchs, 5 victoires, pour la première fois depuis 2010. Entre ces deux actualités, il y a peu de place pour le reste. Pourtant, en milieu de journée, un fait divers s'immisce. A priori assez banal, une bagarre qui tourne mal en plein Paris, à l'aube naissante. Des coups de feu, mais la mort d'un homme. Dramatique, certes, mais il n'y a là rien d'extraordinaire. Enfin si, tout de même. L'identité des protagonistes de cette triste fusillade ne peut qu'attirer l'attention. À commencer par la victime, comme le rapporte France Inter dans son journal de la mi-journée.
Inter.
Cette information qui endeuille le monde du rugby, on l'a appris la mort ce matin de l'ancien joueur du Biarritz Olympique et international argentin Federico Martín Aramburu. Il a été tué par balle à la suite d'une altercation dans un bar ce matin à Paris. Mathilde Vinceneux.
Les coups de feu ont été tirés vers 6h15 du matin, indique une source policière, juste après une altercation entre deux groupes d'individus dans un bar. Il y a eu des insultes, des coups. Le videur de l'établissement a réussi à séparer les deux groupes. Certains ont quitté le bar, puis sont revenus à bord d'un véhicule et ont ouvert le feu sur la voie publique. L'ancien international de rugby a été mortellement touché. Le parquet de Paris a ouvert une enquête de flagrance pour assassinat, une enquête confiée à la brigade criminelle de Paris. Le Biarritz Olympique adresse sur Twitter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l'ancien joueur. Le trois quarts a remporté deux fois le championnat de France de rugby avec Biarritz en 2005 et 2006.
Frédérico Martin à Rambourou. Ce nom ne dit pas grand-chose à la plupart des Français qui écoutent les infos ce jour-là. Mais dans le petit milieu de l'Ovalie, tout le monde sait de qui il s'agit. Et dans la ville de Biarritz, où on l'appelle affectueusement par son surnom, Fédé, c'est loin d'être un inconnu. C'est ici, sur la côte basque, qu'il s'est accompli en 2004. Il a alors 24 ans. Il arrive tout droit de son Argentine natale et le Biarritz Olympique vient de le recruter. Très vite, il fait son trou au centre de l'attaque, dans une équipe constellée de stars françaises. Yash Gilvili, Arinor Doki, Benson. Un an plus tard, le club est champion de France, ainsi que l'année suivante. Aramburu se plaît dans ce pays basque, qui est bien plus pour lui qu'une terre d'adoption. C'est ce qu'il raconte dans un reportage de l'Équipe TV en mars 2006.
Quand je suis arrivé, je ne savais pas toute l'histoire. Mais ma mère, quand, bon, Quand Biarritz m'a téléphoné, il m'a dit « Biarritz, c'est le Pays Basque, nous on a des familles, nos origines sont basques, c'est basque. » Et bon, et après il a commencé à trouver, il a commencé à voir, et bon, on a vu toute la descendance. Et c'est comme ça que j'ai vu que les origines, c'est basque.
C'est une belle rencontre donc, mais pas plus dans le football, dans le rugby, les sentiments ont leur place. Malgré le doublé, Aramburu quitte le Pays Basque en 2006. Direction Perpignan, où il joue 2 ans. Puis il file à Dax, 2 ans encore. Et enfin à Glasgow, en Écosse, 2 ans toujours. En 2014, après 2 ultimes saisons dans son futur club formateur à Buenos Aires, il raccroche les crampons. Mais sa retraite sportive, ou plutôt sa nouvelle vie, ce n'est pas en Argentine que Fedel envisage. Non, c'est au Pays Basque de ses ancêtres, cette terre qu'il a appris à aimer. Plus précisément à Biarritz. C'est ici que lui et son épouse s'installent et qu'ils élèvent leurs 3 enfants. C'est ici également qu'il se lance dans le tourisme. Avec son ami Sean Egarty, un ancien coéquipier du Biarritz, il crée une agence de voyage, Esprit Basque. Leur spécialité, les séjours axés sur le rugby, en Argentine, en Irlande, en Écosse. Ils sont inséparables tous les deux. D'ailleurs, ils sont ensemble ce samedi 19 mars 2022. Ils ont prévu d'assister au match de l'équipe de France dans la soirée. C'est pour ça qu'ils sont à Paris. La veille, Fédé a dîné avec des amis argentins, pas mal d'anciens joueurs, comme lui. Puis vers 1h, au cœur de la nuit, il a retrouvé Sean, rue Princesse, dans le 6e arrondissement, un endroit de 3e mi-temps, comme on dit dans le monde du rugby. Il passe d'un bar à l'autre, vide quelques verres. C'est qu'il y a quelque chose à fêter. Une excellente nouvelle pour leur petite entreprise. Après des années de galère, surtout depuis le Covid, Fédé annonce à Sean que leur agence a obtenu un agrément pour la prochaine Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en France en 2023. Pour Sean, c'est un immense soulagement. Il l'explique dans le 13h15 de France 2 en mars 2024.
Donc on se retrouve dans une rue très connue des rugbyman, rue Princesse. Federico, il arrive, il me dit « Bon, il faut que je t'annonce quelque chose. C'est bon pour la Coupe du Monde, ça va se faire. » C'était une grande nouvelle pour nous parce que c'était un rêve qui se réalisait après le Covid, après tout le moment de difficulté qu'on a vécu. On passe un bon moment, on s'embrasse et puis on n'a pas envie que la nuit s'arrête en fait. On est sur un moment de joie. Et on était heureux.
Heureux donc, mais plus pour très longtemps. Il est 5h passées de 20 minutes, cette nuit-là, quand les deux compères s'installent à la terrasse du Mabillon, au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés. La rue Princesse est à 2 pas. Ils logent dans un hôtel non loin de là. Mais ils ont faim. Bon, veulent manger un morceau avant d'aller se coucher. Ce sera un burger et une pinte pour chacun. Il y a du monde en terrasse. Le Mabillon est connu pour ouvrir 24 heures sur 24 et donc pour accueillir les naufragés des nuits parisiennes. Comme le dit crûment un ancien employé cité dans le magazine Society, avant 2 heures c'est super, après 2 heures c'est un quart d'âge. Mais l'ambiance est paisible ce soir-là. À côté de 2 rugbymen, il y a 2 hommes et une femme qui finissent leur soirée aussi. Ils sont plus jeunes. Les 2 hommes, Loïc Le Priol, 27 ans, et Romain Bouvier, 31, se sont installés ici une demi-heure avant Sean et Fédé. Ils ont bu toute la nuit. Lison Rochemire, la compagne de Le Priol, âgée de 24 ans, les a rejoints quelques minutes plus tard. On pouvait difficilement les ignorer. Ils sont arrivés dans une vieille Jeep militaire, une Willys, de celles que l'on voit dans les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, mais que l'on croise beaucoup plus rarement dans les rues de Paris. Et ils l'ont garée juste devant le café, comme s'ils étaient chez eux. Cette Jeep, c'est l'une de celles qui appartiennent à l'entreprise du père de Loïc, Denis Le Priol, un ancien para, un proche de l'extrême droite également, et qui s'est reconverti dans la retape de vieux engins militaires. Dans le petit monde de la mécanique, ce n'est pas un inconnu. Il a même participé à des émissions de télé, oui, comme ici, en septembre 2023, dans Vintage Mécanique, un programme diffusé sur RMC Découverte. Avec l'un de ses mécaniciens, il teste une drôle de voiture, enfin un véhicule amphibie conçu en 1941 par les Américains.
Bon, alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, a priori, j'entends rien de particulier. Mais c'est quand même un véhicule qui a plus de 80 ans. Hein.
On voit l'essai concluant. Nickel.
C'est donc un équipage ravi et conquis qui termine ce test routier. Il est temps pour eux de partager cette bonne nouvelle avec François, le bidas de la troupe.
François, de notre côté, on a fait le boulot nickel. On a tout fini, tout fonctionne super bien. On n'a pas encore testé la mise à l'eau, mais on le fera ensemble. On se donne rendez-vous sur les plages normandes le jour J. Salut François!
Le Priol aime bien se balader au volant de ses vieilles jeeps dans les rues de Paris. Ah, c'est sûr que là-dedans ne passe pas inaperçu. Mais on est bien loin de la furie du débarquement, ce samedi matin, au Mabillon. Enfin, pour l'instant. Les traits tirés par la nuit blanche, les clients en terrasse discutent calmement. Sean offre une cigarette à Lison, l'ambiance est bon enfant. Mais à ce moment de la nuit, quand l'alcool et la fatigue se mélangent, un petit rien suffit pour faire chavirer les vies. La preuve, il est bientôt 6 heures. Les deux rugbymen s'apprêtent à partir quand tout à coup, le ton monte entre leur voisin et un autre client visiblement éméché. Loïc Le Priol lui répond sèchement. Et ça ne plaît pas à Sean et à Fédé, qui le lui font savoir. Un peu de respect tout de même, disent-ils. De quoi je me mêle? On est français, on fait ce qu'on veut, rétorquent les deux jeunes. Arambourou est argentin et ça s'entend. Le sous-texte est clair. Le Priol se fait menaçant. Il en serre la nuque dégarti. Mais un vigile intervient. Ça ne va pas plus loin. Sauf que, quand il se lève, après avoir réglé la hotte, Arambourou tire la capuche de Le Priol qui tombe à la renverse. Affront insupportable. La bagarre éclate, les coups pleuvent. Sean et Fédé sont des costauds, surtout Sean d'ailleurs. Mais les deux autres aussi. Le Priol est foudrage. Il faut l'intervention des vigiles, encore une fois, et des serveurs pour les séparer. Les clients entendent Le Priol crier « Je vais le tuer ». Quelques secondes plus tard, Sean et Fédé se dirigent vers leur hôtel. C'est bon, pour eux, c'est du passé. D'ailleurs, ils en rient, malgré leur visage tuméfié. « C'est plus de notre âge », se disent-ils. Avant de retrouver leur chambre, ils s'arrêtent dans un autre hôtel, le Welcome, pour demander de la glace. Ils sont pas beaux à voir avec leurs échymoses. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour Le Priol et Bouvier, le contentieux n'est pas soldé. Non, tous les deux se sont mis en mode chasseur. Et ils n'ont qu'une chose en tête, les retrouver. Ce que Sean et Fédé ne savent pas non plus, c'est qu'ils sont armés. Oui, chacun son pistolet. Le Priol est à pied, il marche, déterminé, jette des coups d'œil à chaque carrefour. Il passe devant le Welcome sans voir que ses deux proies, oui, des proies, sont à l'intérieur. Bouvier, lui, est dans la Jeep. C'est Lison Prochemire qui conduit, scrutant chaque mouvement. Et c'est là qu'elle les voit sortir de Welcome. Il est 6 heures passées de 7 minutes. Nous sommes devant le numéro 146 du boulevard Saint-Germain. La jeune femme se gare. Bouvier descend et se dirige vers Arambourou. La suite, c'est Sean Egarty qui la raconte dans le 13-15 de France 2.
Moi, je me dis, c'est pas possible, c'est bon, c'est fini. Non. On veut juste rentrer à l'hôtel. Bouvier sort de la voiture. Et Federico et Bouvier se parlent. Et après, il lui tire dessus, quoi.
Bouvier a tiré à 4 reprises. Fédé est blessé. Il est atteint à la cuisse droite et sur le flanc gauche. Mais Sean ne s'en rend pas compte. Il n'en a pas le temps. Bouvier prend la fuite, Lison Rochemire aussi. Il démarre en trombe. Mais il ne s'est pas passé une minute que voilà Le Priol qui accourt. Il s'agrippe à Arambourou. Les deux hommes tombent à terre. Egarty tente de les séparer. Et à nouveau, des coups de feu. 6 tirs en l'espace de 4 secondes, tous à bout portant. 4 balles transpercent l'Argentin, dont une dans la colonne vertébrale et une dans le cou. Le Priol fuit à son tour. Egarty, lui, tient son ami dans ses bras. Mais il ne comprend pas ce qui se joue. Lève-toi, on va dormir, dit-il à son pote, comme s'il ne voulait pas voir le sang qui coule. Appelle la police, je vais mourir, lui souffle Arambourou. Quand les pompiers arrivent, quelques minutes plus tard, il est trop tard. À 7h, ce samedi matin, alors que les premières lueurs du jour apparaissent, Federico Martin Aramburu est déclaré mort.
Listen, let me tell you what I hate. Everything I ain't. Everything I've done. Everything I break. I hate the way that you were saying I'd be great. Straight, let me tell you what I love. That there's no one above. The thought it is what it is. Shit, same thought it was what it was. Yeah, I'm like the dove that had flew too close to the sun and he knew. Deep down there was nothing he could do as fuck because the sun was you, But still I tell you what I hate though. The same fellas getting bodied by the plain clothes. The same niggas that would follow on the rainbows. Very same boys that would follow on the way home. Yeah, either your jacket or your raincoat. Trying to take something that ain't dope, it's painful. The times wish I had a guardian angel to help me with the brothers are shameful. But still I love the rainfall. I love the fact that they're so fucking grateful. I love the fact that my plane's full. I love the money in my bank is disgraceful. So many zeros. I brush shoulders with so many heroes. I lost count, still hold those De Niro. Trying to say something, my ears closed, I fear those. Lost in the past, living on a recline. The same look up in the rise, if they're borrowing time. It's nine lives on the eight, see the finishing line. It's right there on the horizon, couldn't finish the rhyme. I hate time. I said I fucking hate time. Yeah, they said that it was all that you could be if you were black. Begging ball or maybe rap. And they would say it like a fact. All my people in the back, all the nurses in the front, all my teachers where you at? Cause we've been living like a trap. But the numbers on the wall, hoping people will react. But it's a fact, we've been living in a trap. With traps. I hate, I love. Hate the ones who think that they're above. My grandfather told me never trust in them, but I do. You're the ones I shouldn't chew, I stuck with them, this is it. Still, I see men hit women who hit back, all them couldn't give a shit. Hit them but won't crack under pressure with this shit feeling. Yo, this shit feeling, listen, yo, I fear women.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Aramburu, un rugbyman pris au piège de la violence fasciste.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Federico Aramburu est mort, abattu dans la rue par deux hommes qu'il n'avait jamais vus une heure auparavant et dont il ne connaissait même pas le nom. Il était âgé de 42 ans, il avait trois enfants, dont le plus jeune avait à peine deux ans, et il venait d'obtenir la nationalité française. Dans le monde du rugby, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'Ovalie et le Pays Basque sont en deuil. Les obsèques ont lieu une semaine plus tard, le 26 mars, à Biarritz. Le journaliste de France Bleu Pays Basque, Anthony Michel, est sur place pour France Inter.
Plus de 1000 personnes réunies tout autour de l'écran, venues rendre un dernier hommage au rugbyman.
Ce qui lui est arrivé, c'est quelque chose qui me choque.
Laurence supporte depuis toujours le BO dans ce club où Federico Aramburu avait joué pendant deux ans. Elle accroche un drapeau rouge et blanc sur la place avec sa photo.
Il y a des moments où j'ai du mal à réaliser... que ça lui est arrivé à lui. On se dit, c'est pas possible. Pas à lui, pas Federico, non.
Interloqué comme Laurence, une autre supportrice.
On est tous là parce qu'on est tous orphelins. On a tous perdu un ami, proche ou pas proche, on s'en fout.
Sur la place, certains l'ont connu. Robert Ravani, alias Geronimo, l'ancienne mascotte du BO, se souvient de qui il était.
C'était quelqu'un qui transmettait... La passion, la joie, respectée par tous les supporters, que ce soit les supporters du Biarritz Olympique ou les supporters des clubs adverses. Et il avait ce qu'on appelle un esprit et un très bon esprit. Et c'est vraiment la famille du rugby qui est en deuil aujourd'hui.
Triste fin. Mais si l'affaire prend une autre tournure, si elle capte l'attention des journalistes, ce n'est pas seulement parce qu'Aramburu était un ancien rugbyman international, à apprécier tout le monde. C'est aussi parce que ces assassins ne sont pas de simples kidams. Au fur et à mesure que l'étau se resserre autour d'eux, alors qu'ils sont en fuite et que, à l'aide des caméras de vidéosurveillance, les policiers les ont identifiés, leur parcours sinueux et leur profil violent est raconté en détail dans la presse. Aramburu était un homme bienveillant, convivial et ouvert d'esprit. Le Priolé Bouvier, c'est tout le contraire. C'est la haine qui les guide et l'air qui les entoure est irrespirable. Ce sont des gros bras qui ont des armes et qui aiment la castagne, et pas seulement. Ce sont aussi des militants engagés dans des groupuscules racistes, des petites frappes qui se révèlent défenseurs de la France éternelle et qui côtoient des figures de premier plan de ce qu'on appelle l'ultra-droite, tout en fréquentant les beaux quartiers parisiens. Et surtout, ce sont deux hommes connus des services de police, connus de la justice également, qui n'auraient jamais dû se retrouver ensemble cette nuit-là et qui n'auraient jamais dû pouvoir se pavaner dans les rues de Paris avec une arme sur eux. Commençons par Loïc Le Priolé. Il a 27 ans au moment des faits et un casier judiciaire déjà bien chargé. Il compte 4 condamnations, la plupart du temps pour violence. La première fois qu'il passe devant un tribunal, il a à peine 18 ans. Et à l'époque, depuis le 25 août 2011 précisément, il est déjà fiché S pour ses accointances avec l'ultra-droite. Parmi les mouvements qu'il fréquente, il y a le groupe Union Défense, le GUD, ce syndicat étudiant créé après mai 68 et contre mai 68, et dont le spécialiste de l'extrême droite, Jean-Yves Camus, retrace la genèse en 2002 dans l'émission de France Inter, Le Téléphone Sonne.
Quand le GUD est créé en 69, c'est avant tout pour faire pièce aux syndicats communistes et gauchistes qui tiennent à l'époque le haut du pavé dans les universités, principalement parisiennes. Il semblerait que cette création n'ait pas d'ailleurs été complètement spontanée, on va dire. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans les premières années, en tout cas, les militants et les dirigeants du GUD servent objectivement les intérêts de ceux qui cherchent à étouffer le mouvement issu de mai 68. Et c'est sans doute ce qui explique aussi qu'un certain nombre d'entre eux aient pu avoir par la suite d'assez brillantes carrières dans la droite classique, à des postes à responsabilité assez élevés. Il y a toute une radicalisation du GUD au fur et à mesure que le temps passe, si vous voulez. Ça commence comme un syndicat effectivement violent qui n'hésite pas à faire le coup de poing contre les militants de gauche et d'extrême gauche dans les universités, et ça se termine aujourd'hui avec quelque chose qu'on peut appeler un mouvement néo-nazi.
Le Priolé est fiché S parce qu'il chemine avec des néo-nazis. Mais ça ne l'empêche pas, lui, le fils de Para, de faire l'école des mousses à Brest, puis d'intégrer la marine à sa sortie et de devenir fusilier marin. Ça n'empêche pas non plus, aussi incroyable que cela puisse paraître, de rejoindre le commando Montfort, l'un des 7 de la marine, et d'intégrer ainsi la crème de la crème de l'armée française, les forces spéciales, des hommes suréquipés, surentraînés, formés aux missions les plus sensibles, et à tuer notamment. D'ailleurs, il est envoyé au Mali dès 2013 pour éliminer les djihadistes sahéliens dans le cadre de l'opération Serval. Il n'a alors que 19 ans. 2 ans plus tard, on le retrouve à Djibouti mêlé à une sale histoire. Une prostituée l'accuse de l'avoir passé à tabac et défiguré. Comme souvent, l'affaire n'est pas ébruitée. Elle se règle à l'amiable par le versement d'une somme censée acheter le silence de la victime et par le rapatriement en catimini de Le Priolé. D'office, il est mis en congé. Raison officielle, état de stress post-traumatique sévère. Malgré 2 décorations décrochées, 2 sanctions aussi, les jours du jeune homme dans l'armée sont comptés. Il faut dire qu'il accumule les faux pas. En février 2015, il cogne 2 types à la sortie d'une boîte de nuit, à Paris, en compagnie d'un certain Romain Bouvier. Dans la foulée, en mars, les services de police émettent une nouvelle fiche S à son encontre. Il est précisé que c'est un homme, je cite, « dangereux », un militant d'extrême droite radical, susceptible de commettre des actions violentes et même de les filmer. Le 8 octobre 2015, quelques semaines après son retour prématuré de Djibouti, Le Priolé participe à une opération commando d'un autre type avec 4 camarades du GUD, parmi lesquels un certain Romain Bouvier, encore lui. Il s'agit ni plus ni moins que d'une expédition punitive visant Édouard Klein, le nouveau président du GUD. Il parle trop, il parle mal, selon eux. Il faut le lui faire savoir. Alors ce soir-là, il débarque chez lui, le passe à tabac et l'humilie alors qu'il est nu. Et il le filme avec leur téléphone. Dans une vidéo révélée par Mediapart, on voit Le Priolé marcher sur le visage de Klein, lui glisser un couteau sous la gorge et dire « Le coupe-gorge, ça va très vite, tu sais. » Ou encore le menacer de le sodomiser. On l'entend aussi se vanter d'en avoir, je cite, « buté plus d'un là-bas », sous-entendu au Mali. Écoutons-les, lui et ses camarades, dans l'un des extraits révélés par Mediapart.
Arrête de jeter la pute comme ça, assume un peu ce que tu dis.
Ta salope. Hein,
quand et viens la lumière. Mets ta chatte, putain hein, t'attends quoi pour foutre un poil? Dépêche-toi. Putain, mais t'attends quoi?
Mais oui, mais...
Tu perds du temps, tu perds de l'argent, dépêche-toi.
8. Dépêche-toi.
7.
Mais j'ai ce que je veux, putain, 5, mais arrêtez-vous.
4, 3, 2, 1, putain.
Arrête.
Dépêche-toi.
Loïc, putain. T'es
ta gueule, ta gueule,
ferme ta gueule.
Quelques semaines plus tard, le Priol est arrêté et envoyé en prison. Il y restera 6 mois en attendant son procès. Mais c'en est trop pour l'armée. En octobre 2017, il est radié. Le voilà rendu à la vie civile. Dès lors, on le voit parader sur les réseaux sociaux comme dans les beaux quartiers parisiens, avec tout ce que la droite identitaire compte de figures marquantes. Julien Rochdy, notamment, l'ancien président de la jeunesse du Front National. Le Priol crée une ligne de vêtements identitaires, bap tout solide, qui fait fureur chez les fachos avant de couler. Alors il se lance dans la vente de compléments alimentaires. Puis dans l'événementiel, il organise des soirées dans la propriété familiale, à Draguignan-en-Var. Nom de la villa, l'Octopus, parce qu'elle a la forme d'une pieuvre. On le voit dans des clips également, comme celui du rappeur Goldofaf, la contraction de Goldorak et de Faf, l'acronyme de la France en français, rien que ça. Ce dernier est connu notamment pour avoir chanté la gloire de Pétain dans un morceau intitulé « Travail, famille, patrie ». Dans le clip d'un autre titre, « Le rêve parisien », le Priol apparaît masqué. Il est question ici de croisade, de reconquête. En voici un extrait. Passons à Romain Bouvier, le deuxième homme. Un autre profil. Lui, c'est plutôt allétré, tendance réac, bien sûr. Un fils de bonne famille, une mère avocate, un père parti trop tôt et qui a grandi dans les quartiers chics de Paris et qui fréquente la grande bourgeoisie d'extrême droite. Comme son père avant lui, Bouvier milite au GUD, à l'époque où le Priol, lui, fait la guerre au Sahel. Romain Bouvier est une figure de ce groupuscule à Assas, où il étudie le droit et où il brille plus par son éloquence que par ses résultats. Il est vrai que dans cette fac parisienne, il joue à domicile, comme on dit. Et ça ne date pas d'hier. Écoutez cet extrait du journal de France Inter du 16 décembre 1980, qui fait suite à un raid brutal du GUD sur la fac de Nanterre.
Ce n'est un secret pour personne, le GUD et les autres groupes d'extrême droite ont leur quartier général à la faculté de droit de la rue d'Assas à Paris. Ils y sont un peu comme des poissons dans l'eau, aussi à l'aise que les gauchistes l'étaient à Nanterre en 1968 ou les autonomes à Jussieu il n'y a pas si longtemps. Jacques Robert, le président de l'université Paris 2, dont dépend justement la faculté d'Assas, reconnaît que l'extrême droite est nombreuse dans ses murs, mais ça ne l'inquiète pas trop. Il explique pourquoi Didier Lecas.
C'est pas une gade prétorienne. Les étudiants ont des casques, ce sont des casques de motocyclette. Je veux pas empêcher les étudiants d'entrer dans l'université avec un casque quand ils déposent leur mobylette à l'entrée. Oh, ils se font remarquer dans le hall, c'est un fait. Mais...
On les entend beaucoup, ils tiennent meeting. Souvent.
On les entend beaucoup, ils ne tiennent pas meeting dans le hall.
Quarante ans après, Bouvier milite au GUD, donc. Et il est effectivement comme chez lui, à Assas. Il cite Maurras, ou encore Drieu-La Rochelle, tout en répétant, nous devons être intellectuels et violents. Violent il est, assurément. On l'a vu, il est de toutes les bagarres avec le Priol, à la sortie des boîtes de nuit notamment. Et lui aussi est envoyé en prison après avoir lynché Édouard Klein. Sur la vidéo, on l'entend dire à la victime, tu enlèves la chemise, tu enlèves les chaussettes, tu enlèves ton foulard, et on te pend avec. Comment se sont-ils rencontrés tous les deux? On l'ignore. Probablement via le GUD. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont inséparables. Ils aiment à se qualifier de gentlemen fascistes. Lugubre oxymore. Il partage les mêmes idées suprémacistes, mais aussi une même fascination par la violence, pour les armes surtout. Alors qu'il est en fuite, la police retrouve un véritable arsenal chez Bouvier, rue des Saints-Pères, à deux pas du Mabillon. Des revolvers, des carabines, un fusil à pompe ou encore une baïonnette. Mais aussi des centaines de munitions et même un gilet pare-balles estampillé. Police, pourquoi gêner ? Entre autres découvertes également, de l'argent, 8500 euros en liquide, une statuette d'Adolf Hitler et un exemplaire en allemand, s'il vous plaît, de son pamphlet Mein Kampf. Ce qui est certain également, c'est que ce 19 mars 2022, Bouvier et Le Prieul n'auraient jamais dû être ensemble. Depuis leur mise en examen après leur descente chez Klein, ils n'ont pas le droit de se fréquenter en attendant leur procès qui approche. Il est prévu pour juin. Pourtant, non seulement ils passent la nuit ensemble à enquiller des verres de chartreuse, mais en plus, la veille, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont dîné dans le 16e arrondissement avec un ami policier. Oui, un policier. Toutes ces informations tombent alors que les deux hommes sont recherchés. Et elles éclairent d'un jour nouveau la fusillade qui a coûté la vie à Rambourg. On ne parle plus d'un simple fait divers désormais, mais bien d'un fait de société. Car cette affaire pose la question de la violence atavique de l'extrême droite, du danger qu'elle représente pour les individus comme pour la démocratie, mais aussi de ses accointances avec les forces de l'ordre. Le monde du rugby ne s'y trompe pas. Dans une tribune publiée dans le journal L'Équipe, une centaine de joueurs, d'entraîneurs et de dirigeants l'affirment haut et fort. Arambourg a été assassiné parce qu'il s'est opposé à des idées extrémistes et fascistes. C'est l'extrême droite qui l'a tué, soutiennent-ils alors que l'élection présidentielle approche et que le silence du gouvernement après cette fusillade est assourdissant. Cécilia Arambourg, la mère de Fédé, l'affirme elle aussi. Et elle s'y connaît en fascisme. Elle qui a perdu ses proches durant la dictature militaire en Argentine dans les années 70 et 80. D'ailleurs, elle ne mâche pas ses mots dans le 13-15 de France 2 en 2024.
C'était pas des petits rigolos.
Non, ils avaient déjà commis de graves délits.
C'était pas des types bourrés dans une embrouille de bar. C'était des racistes, des suprémacistes. Ils étaient fichés S. Ils n'avaient pas le droit d'être ensemble à Paris, ni de porter d'armes. Ils avaient déjà été arrêtés. Ils auraient dû être mieux surveillés.
Quoi qu'il en soit, et malgré leur réseau, la cavale des deux hommes fait long feu. Lison Rochemire est la première à être arrêtée quelques heures après le drame. Elle circule dans sa Fiat 500 sur le pont d'Alma, ce samedi 19 mars, lorsqu'elle est interpellée en début de soirée. Trois jours plus tard, elle est mise en examen pour complicité d'assassinat. Et le lendemain, c'est un mercredi, c'est au tour de Romain Bouvier et de Loïc Le Prieul. Ils sont retrouvés le même jour, mais pas au même endroit.
Loïc Le Prieul et Romain Bouvier ont tous les deux été arrêtés. L'un en Hongrie, l'autre en France. Loïc Le Prieul, ici en noir, filmé par des policiers hongrois. Lors d'un banal contrôle d'identité, les douaniers découvrent qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Il est arrêté à 1800 km de Paris. Une fuite en voiture jusqu'en Hongrie. Sa cavale s'arrête à Zaoni, aux portes de l'Ukraine. Il voulait y aller pour se battre, assure-t-il à la police locale. Cela lui aurait surtout permis d'échapper au mandat d'arrêt européen. L'autre suspect, Romain Bouvier, a été interpellé à Sablé-sur-Sarthe. Selon nos informations, les enquêteurs l'ont repéré après un paiement par carte effectué dans cet hôtel de la région.
Dans la foulée, Le Prieul est rapatrié. Lui et Bouvier sont mis en examen pour assassinat. Ils sont écroués. Quelques mois plus tard, en juin 2022, ils sont extraits de leur cellule pour répondre de leurs actes dans l'affaire Klein. Le Prieul est condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes par le tribunal correctionnel de Paris. Bouvier à 5 ans, dont 3 fermes. En septembre 2026, ils reprendront le chemin du tribunal, mais cette fois, c'est à une cour d'assises qu'ils auront affaire. Leurs avocats nient la préméditation. Ils parlent même de légitime défense. Il n'empêche, Le Prieul devra répondre de l'accusation d'assassinat, parce que ce sont ses balles qui ont tué Arambourg et Bouvier de tentative d'assassinat. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Aujourd'hui à Rambourg, un rugbyman pris au piège de la violence d'extrême droite dont nous parlons avec notre invitée Marine Turki. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart et précisément spécialiste de l'extrême droite. Vous avez notamment suivi de près l'affaire à Rambourg et c'est vous qui avez révélé la vidéo du passage à tabac d'Edouard Klein, hein, le dirigeant du GUD en 2015. Parlons-en d'ailleurs parce que ça annonce presque ce qui va se passer après. Alors pourquoi cette violence-là, avec cette humiliation nue, torturée, filmée?
Oui, je me souviens que quand avec Thierry Vincent, mon confrère, on récupère ces vidéos, on est totalement choqué parce que c'est une scène d'une violence inouïe, c'est une séance d'humiliation, vous l'avez dit, hein. La victime, elle est mise à nu, on lui porte des coups, elle est ensanglantée à genoux, ensuite Loïc Le Priol va mettre un couteau sous sa gorge, etc. Faut savoir, et c'est important de le dire à celles et ceux qui nous écoutent, que ces 9 vidéos, l'enquête de police n'avait pas permis de les retrouver. Et on a pu mettre la main dessus, évidemment on s'est posé la question de les diffuser ou non, et puis on a expurgé évidemment les éléments, les vidéos qui étaient les plus humiliantes et dégradantes pour la victime.
Oui, complaisance avec ça, évidemment.
Voilà. Mais pourquoi je raconte ça? Parce que Loïc Le Priol, celui qui filme et celui qui dit dans la vidéo, cette vidéo, c'est Loïc Le Priol qui l'a et elle reste entre les mains de Loïc Le Priol. Il ne s'imaginait pas, évidemment, que ces vidéos allaient atterrir entre les mains de la police et que ça allait le poursuivre assez longtemps et entraîner notamment sa condamnation dans cette affaire et celle d'autres personnes. Il pense que c'est un moyen de garantir le silence d'Edouard Klein. Il pense que c'est une manière de l'humilier, bien sûr, mais une manière de maintenir ce silence puisqu'il lui dit, cette vidéo, on l'a balance pas sur YouTube si tu te tais. Mais si tu parles, là, on va la diffuser. Voilà ce qu'ils lui disent à ce moment-là. Il est reproché à Edouard Klein, dans cette vidéo, d'avoir trop parlé. On entend, t'es venu voir les flics comme une merde, t'as parlé, faut assumer, tu vas payer pour tout ce que t'as dit. Et on comprend pas trop dans les vidéos, et le procès n'a pas permis non plus de comprendre ça. Ce qui lui est clairement reproché à Edouard Klein. Une source bien insérée dans ses milieux m'avait dit qu'il lui était reproché d'avoir été en contact avec des services de police ou de renseignement. Mais ça, c'est quelque chose que les vidéos et le procès n'ont pas permis d'expliquer.
Bon, alors effectivement, l'affaire est importante. Je veux dire que ce n'est pas l'essentiel, c'est surtout annonciateur de ce qui va se passer après. Le leader de ce petit groupe, hein, qui rend visite à Klein, c'est donc Logan Gian, l'ancien chef du GUD. Mais Le Priol ne laisse pas sa part de gâteau, hein. Il est particulièrement virulent. On l'a dit, quels sont ses liens avec le GUD? Je rappelle que c'est un militaire, que fait-il dans ce groupuscule?
Alors, Loïc Le Priol, il fréquente activement le GUD à partir de 2011-2012. Oui. Il aurait été en contact avec le GUD via les supporters ultra du PSG. Ça, c'est ce qui lui a été imputé. En tout cas, il est fiché, vous l'avez dit, il est fiché S à partir de 2011. Il a 17 ans à l'époque pour ses liens avec l'extrême droite radicale. Et donc, il va effectivement militer activement avec le GUD, qui est un groupuscule étudiant connu pour ses méthodes violentes et connu pour aller faire le coup de poing. Et Loïc Le Priol, je crois qu'on l'a compris en vous écoutant, est quelqu'un de très violent, qui a une longue lignée de violence à son actif et qui a été condamné dans plusieurs affaires de violence. Alors effectivement, un militaire, ça peut étonner de le voir au GUD.
Oui.
Et pourtant, il faut savoir que l'armée française a été mise en cause plusieurs fois pour une forme de laisser-faire vis-à-vis de membres de militaires qui auraient dans ses rangs eu des accointances et un affichage de conviction à l'extrême droite, voire néo-nazis. À Mediapart, on a révélé quand même une soixantaine de militaires néo-nazis, et face à ça, l'armée a très peu réagi, annonçant des sanctions et n'en sanctionnant finalement pas beaucoup. Donc c'est pour ça que la présence d'un profil comme Loïc Le Priol n'est pas si étonnante quand on voit ce laisser-faire qui existe dans l'armée aujourd'hui.
Alors j'ai un peu hésité pour le titre « Victime de la violence d'extrême droite ou de la violence fasciste », c'est pas la même chose, hein. Les choses sont précises. Là, pour le coup, on est chez les fascistes.
Là, clairement, on est dans l'idéologie meurtrière de l'extrême droite. Et souvent, on entend que ça ne fait pas de mort, la violence de l'extrême droite.
Mais si,
cette affaire, elle montre que oui, ça fait des morts. Et je pense que c'est important de rappeler que Federico Martín Aramburu, il avait 42 ans, il avait 3 enfants, dont l'un qui avait moins de 2 ans. Il laisse derrière lui voilà, des amis, une famille. C'est important de raconter cette histoire parce que l'extrême droite fait des morts en plein Paris. Et à l'époque, on en a parlé 24 heures dans les médias. On en a parlé jusqu'à ce que la cavale finisse et que les deux hommes, les deux mis en cause, soient arrêtés. En réalité, il n'y a pas eu de réaction du gouvernement face à cet assassinat, face à la mort en plein Paris d'un homme par deux personnes, vous l'avez dit, qui n'étaient pas censées être ensemble, qui n'étaient pas censées être armées. Or, ce soir-là, ils étaient ensemble alors que leur contrôle judiciaire l'interdisait. Ils étaient armés, ils avaient chacun un pistolet sous la parka. Donc, ça aurait dû entraîner un grand débat. sur la question des violences de l'extrême droite, la question des liens ou pas avec le Rassemblement national, des réactions du gouvernement. Rien de tout ça n'a eu lieu, et c'est intéressant parce que 20 ans avant, en 2002, pendant la présidentielle, vous devez vous en souvenir, il y a eu une agression qui a fait la une, celle de Papivoise, cet homme de 72 ans.
Et qui aurait rapporté 1 million de voix, dit-on, à Jean-Marie Le Pen.
Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a fait le débat.
Bien sûr.
Le débat est devenu celui de l'insécurité parce qu'il avait été racketté, cambriolé, passé à tabac par des jeunes.
Et surtout son émotion multidiffusée sur certaines chaînes. Hein.
Voilà, tout à fait. Là, si vous voulez, on n'a pas eu quelque chose qui était de sortir du fait divers pour expliquer un petit peu le débat qui pouvait se poser par rapport à la violence de militants d'extrême droite qui étaient armés avec des armes de collection. Donc ça montre quand même un sacré trou dans la raquette et sans doute un manque de surveillance. Ce débat-là, il n'a pas eu lieu et il n'y a pas eu de réaction, notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont on sait pourtant qu'il est très rapide à réagir, notamment sur Twitter, sur le moindre fait divers ou l'affaire de violence.
Alors posons la question ouvertement, quels sont les liens du GUD et plus largement de toute cette mouvance identitaire avec le Rassemblement national de Marine Le Pen ou de Bardella ?
Historiquement, il y a toujours eu des passerelles entre le GUD et le Front National, parce que le Front National avait besoin dans les facs de gros bras pour faire face aux militants de gauche ou antifascistes. Mais c'est vrai que sous le règne de Marine Le Pen, quand elle prend la tête du Front National, alors même qu'elle a une stratégie de dédiabolisation, dans son premier cercle, on va trouver des piliers du GUD des années 90. Donc un petit peu les grands frères ou les papas de ceux dont on parle aujourd'hui, au sens où c'est l'ancienne génération, celle des années 90. Ceux-là vont entourer Marine Le Pen, ils vont créer des sociétés qui vont travailler comme prestataires de sécurité de communication pour le Front National. Et cette ancienne génération, elle est solidaire de la jeune génération dont on parle aujourd'hui, jusqu'à parfois l'embaucher dans des sociétés qui ont travaillé pour certaines pour le Front National, donner un coup de pouce, aider. Et c'est important de raconter ça, parce qu'il y a des sociabilités, il y a des passerelles. Et vous avez parlé de Romain Bouvier, de Louis Le Priol, de Julien Rochedy, de Paul-Alexandre Martin, qui était aussi au Front National de la Jeunesse à l'époque. Tout cela, c'était une bande d'amis dans les années 2012-2014. Donc il y a des sociabilités, des amitiés qui dépassent les appartenances groupusculaires ou partisanes. Donc même s'il y a pu avoir des inimitiés ou des affrontements entre le FN et le GUD, c'est aussi beaucoup une bande d'amis qui se retrouvent parfois. Exemple, en 2012, c'est les 40 ans du Front National, et sur une grande et belle photo, on a des jeunes du GUD de cette époque-là et des jeunes du Front National qui font la fête ensemble.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Marine Turquine, journaliste à Mediapart, notre invitée. Intéressons-nous maintenant à cet aspect de l'affaire, peut-être le plus choquant, les liens réels ou présumés, apparemment réels, hein, entre ces hommes, ces affreux, et les services de police. Qu'on a retrouvé, je le rappelle, au domicile de Bouvier, un gilet pare-balles estampillé police. On sait aussi que parfois, les deux hommes sortaient avec un brassard de la police, et surtout, on l'a entendu dans le récit également, quelques heures avant de tirer sur Aramburu, Le Priol et Bouvier ont dîné avec un policier.
Alors, ce policier, il a tout de suite alerté sa hiérarchie, puisqu'effectivement, quelques heures avant l'assassinat d'Aramburu, il dînait avec eux. Il a évoqué le fait que c'était des connaissances via des amis militaires. On ne sait pas s'il était dans une relation d'amitié ou s'il était, par exemple, en train de travailler pour les renseignements, les services de renseignement et en train d'aller chercher des informations. Ça, l'enquête ne le dit pas. Mais ça raconte quelque chose de plus large qu'on sait, qui est finalement les connivences qui peuvent exister entre l'extrême droite et une partie de la police. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les enquêtes du CVPOF qui montrent que, par exemple, à la veille de la présidentielle en 2022, 60% des policiers indiquaient leur intention de vote pour le RN, et même 74% si on prend les seuls policiers actifs. Et je vais vous donner une anecdote. Au moment de la présidentielle de 2017, l'éminence grise de Marine Le Pen, Philippe Pénin, qui lui aussi un ancien chef du GUD des années 70, m'avait dit ceci: vous savez, l'appareil d'État maintenant, jusqu'au niveau commandant de police, commandant des services, commandant de la gendarmerie, c'est 97% front. Donc quand il y a des informations qui arrivent, on sait des choses avant le ministre. Voilà ce qui m'avait lancé. Alors évidemment, ce chiffre est invérifiable, mais c'est pour dire que bien sûr qu'il y a des connivences et des formes d'accointance idéologique. Ça ne veut pas dire bien sûr que la police vote intégralement RN, mais ça veut dire qu'il y a des moments où les idées peuvent se rejoindre et où il peut y avoir une forme de complaisance.
Deux militants connus de l'extrême droite, dont un est fiché S, qui sont interdits de se fréquenter par une décision de justice, et qui dînent en plein cœur de Paris avec un policier, c'est tout ça invraisemblable. Que fait la police et aussi la justice par rapport à ces gens-là, qui sont quand même fichés, quoi.
C'est ce que met en avant l'accusation dans cette affaire. C'est qu'on avait quand même deux hommes qui n'avaient pas le droit de se voir, qui n'avaient pas le droit d'être armés, et qui précisément ce soir-là se voient et sont armés. Et vont même amener leur Jeep pour pouvoir faire une course-poursuite et retrouver Aramburu. Évidemment que ça interroge. Et c'est ce que met en avant la famille d'Aramburu, de dire à quel moment il n'y a pas une surveillance accrue. Donc ça pose évidemment la question de savoir si l'histoire de Le Priol et Bouvier, jusqu'en 2022, c'est une histoire d'impunité ou c'est une histoire de complaisance. Parce que vous avez cité l'affaire des vidéos de l'agression d'Edouard Klein, mais c'est toute une série de violences, et je pense notamment à Loïc Le Priol qui est impliqué dans tout un tas d'épisodes de violences depuis son plus jeune âge. Donc la question qu'on se pose, c'est comment un profil comme celui-ci arrive à ce niveau-là dans l'armée. Parce que, vous l'avez dit, il a été fusillé. Il a été membre d'un commando, le commando Montfort, qui est un commando d'une unité d'élite. Comment, avec deux fiches S, vous arrivez à ce niveau-là dans l'armée ? On peut penser qu'il y a une forme de complaisance, de mansuétude à l'égard d'un élément qui était considéré comme bon au sens d'aptitude physique.
Il sera un bon guerrier, quoi, un bon soldat.
Voilà, d'ailleurs, il avait été décoré après ses missions spéciales à l'étranger. Mais on peut aussi penser que, finalement, on pense que tout ça n'est pas si grave. Il y a une forme de laisser-aller. Et j'ajouterais que les services de renseignement se sont beaucoup inquiétés de la présence accrue de militaires et plus généralement d'anciens membres des forces de l'ordre, dans les groupuscules d'extrême droite violents, y compris parfois impliqués dans des projets terroristes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les services de renseignement, c'est le rapport du parquet général de la Cour d'appel de Paris qui documente ce phénomène de présence de militaires dans des projets de violence d'extrême droite.
Alors que la violence d'extrême gauche, elle semble-t-il plus traquée ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de dossiers que le parquet antiterroriste a en main, les violences d'extrême droite sont aujourd'hui une menace grandissante. C'est une menace qui est grandissante et à l'échelon européen, la France possède une grande partie des dossiers de terrorisme d'extrême droite.
Avant de finir, j'aimerais qu'on parle un peu de Cecilia Aramburu, donc la mère de Federico. On l'a entendu, elle vit en Argentine. Elle est très active dans ce dossier, toujours.
Oui, elle avait livré déjà une parole très importante aux obsèques de son fils, pour justement s'alarmer de ces violences d'extrême droite en plein Paris, s'alarmer du silence du gouvernement, et j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec elle ces dernières semaines. Elle ne comprend pas, d'une part, le retard pris par la procédure, qui est très très longue en France, et qui, selon elle, profite aux mis en cause, puisqu'il pourrait demander une libération après 4 années sans condamnation. Elle estime que ça profite à l'extrême droite, parce que pour l'instant, on parle de mis en cause et pas d'assassins. Mais elle estime aussi qu'il y a un silence coupable, de tout un tas de complices structurels, comme elle dit. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas dénoncé ce crime, n'a pas dénoncé cet assassinat. Il y a eu un silence assourdissant du gouvernement. Et elle estime qu'aujourd'hui, alors qu'il y a eu plusieurs faits de violence imputés à des personnes proches de l'extrême droite, notamment le meurtre d'un Tunisien il y a quelques mois en France par son voisin qui était proche de l'extrême droite, elle alerte beaucoup là-dessus. C'est une parole qui finalement est assez peu portée en France avec avec un tel aplomb. Elle est très engagée sur ce sujet, et bien au-delà du cas de son fils, pour lequel elle demande évidemment la vérité et la justice.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Marine Turki.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Aramburu, un rugbyman pris au piège des gentlemen fascistes. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.